Nous sommes avec Franck Laffont à la librairie L'Imaginote, rue du Commerce à Tours, pour une séance de dédicace suite à la sortie du dictionnaire du cinéma fantastique et de science-fiction sorti chez Vendémiaire. Bonjour. Question classique, d'où est venue cette envie de regrouper fantastique et science-fiction dans un dictionnaire, parce que c'est un vaste sujet?
Oui, j'ai estimé qu'effectivement le fantastique tout seul ne suffisait pas pour remplir quelques centaines de pages, donc j'ai décidé d'étudier en parallèle la science-fiction. Bon, ça m'a surtout permis évidemment d'aborder l'œuvre de certains réalisateurs qui sont illustrés dans les deux genres, et puis d'un point de vue thématique, parfois de mettre en rapport, en parallèle, des choses qu'on a tendance à séparer de manière un petit peu inutile parfois.
Ce choix, parce que choix forcément il doit y avoir, vous avez quand même 400 pages à l'intérieur du dictionnaire, le choix il s'est fait comment? C'est sur vos coups de cœur, parce que on vous connaît déjà pour d'autres ouvrages sortis chez différentes maisons d'édition sur le cinéma de genre, du coup c'est des choix personnels, tout ce qu'on retrouve à l'intérieur, ou c'est des choses qui s'imposaient à vous parce que renommée d'un réalisateur, succès commercial ou autre?
Il y a les deux en fait, il y a évidemment d'abord la volonté d'aborder toutes les œuvres qui sont parmi les plus connus, les plus renommés, à tort ou à raison, ça c'est un autre problème. Et puis, bien entendu, comme tout ne pouvait pas forcément rentrer dans les 400 et quelques pages que constitue le livre, il y a forcément un choix qui a été fait de manière subjective, en fonction de mes goûts, en fonction aussi de la pertinence parfois de voir certaines œuvres pour certains thèmes, même si ce sont par ailleurs des œuvres mineures, mais elles peuvent être intéressantes à mentionner ou à étudier ponctuellement dans certains contextes. Donc il y a les deux, il y a l'idée d'arriver à un balancement entre œuvres connues et œuvres moins connues aussi. C'est-à-dire qu'il fallait couvrir les choses qu'il y avait à couvrir nécessairement, tout en essayant d'ouvrir le dictionnaire sur des sujets ou des cinématographies moins connues, ou des cinématographies dont on parle moins d'ordinaire.
Du coup, vous pensez qu'il est destiné plutôt à quel genre de lectorat? Plutôt des gens qui souhaitent découvrir le cinéma de science-fiction et fantastique, ou plutôt déjà des connaisseurs qui souhaitent chercher des raretés?
Je pense que les deux types de lectorat risquent d'y trouver leur compte, parce qu'en couvrant les films les plus connus, on peut attirer déjà un lectorat qui n'a que connaissance superficielle de ces deux genres, fantastique et science-fiction, et par ailleurs il y a, je pense, suffisamment d'œuvres rares qui sont analysées pour que le fanatique qui a déjà un bagage très important puisse faire quand même des découvertes.
Au niveau de la période chronologique, qu'est-ce que vous avez voulu mettre en fait dans le dictionnaire? Vous faites vraiment plus large, ou enfin comment est-ce que vous êtes cadré, c'est-à-dire que vous commencez de Méliès jusqu'à de nos jours. Comment vous avez géré justement cette période chronologique?
Oh, tout simplement, c'est-à-dire qu'il a fallu, toujours dans cette même volonté de couvrir les œuvres les plus célèbres, de toute façon il a fallu prendre en compte les premières œuvres, aussi parce que dans ces premières œuvres de Méliès, on voit apparaître beaucoup de thèmes, tels que le thème des poupées, par exemple, qui apparaît chez Méliès, et plein d'autres thèmes qui sont présents dans le cinéma dès l'origine. Et je me suis efforcé, bien entendu, d'aller jusqu'au plus près, pour des questions très récentes, plus près de ma fin de rédaction. Donc, bien entendu, les films qui sont sortis pendant les 6 derniers mois ne sont pas couverts, mais ce sont les seuls, à première vue, qui sont ignorés.
Est-ce que vous avez redécouvert des choses, justement, en même temps que vous faisiez vos recherches, des films que vous étiez passé à côté, en fait, et que, justement, grâce à cet ouvrage-là, vous-même, vous vous êtes refait des petits plaisirs?
Oui, bien entendu. Il y a d'abord des films que j'ai revus pour les besoins de dictionnaire, même si je les connaissais par ailleurs, et il y a des films que j'ai vus enfin, parce que, j'ai l'air comme tout le monde ou presque, il y a des œuvres dont on connaît l'importance, que l'on veut voir, mais que l'on trouve jamais, pour une raison ou une autre, le temps de visionner. Et par ailleurs, le travail de recherche, notamment le travail de recherche thématique, m'a amené à découvrir des films dont j'ignorais l'existence auparavant, et à faire de belles découvertes de temps en temps, des films qui sont étrangement méconnus. Pour diverses raisons, notamment parce que certaines ne sont pas disponibles en vidéo, donc ça limite leur accès immédiat, bien entendu. Et puis parfois, on a de bonnes surprises. Un des films qui a le plus marqué pendant la rédaction, un film anglais de 64 qui s'appelle Unearthly Stranger, de John Crish. J'ai eu la bonne surprise de découvrir il y a quinzaine de jours, qui venait juste d'être édité en Angleterre, en Blu-ray, alors qu'il n'était jusqu'à là disponible nulle part, même pas en DVD. Donc on se dit que finalement on avait bien vu les choses, parce que ce film est suffisamment intéressant pour bénéficier d'une sortie en haute définition.
Et cette histoire comme quoi ce qu'on voit maintenant, c'est forcément qu'une redite de ce qui s'est passé précédemment. Vous êtes conforté dans cette idée-là, ou au contraire, justement, d'avoir réétudié cette grande période du cinéma, vous trouvez que même sur les dernières productions, il y a encore beaucoup d'originalité?
Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'originalité. Ce que je sais, c'est que fantastique et science-fiction, puisque ce sont deux genres qui sont en phase avec les sociétés qui les produisent, c'est des genres cycliques, hein, ont tendance à retrouver cycliquement une forme de vitalité. Dès les années 50, en fait, dans une production American International Picture, il était question de la mort du cinéma fantastique. Ça fait 60 ans maintenant, à peu près, à quelques années près, le fantastique existe encore, et il y a forcément, au-delà, en ce qui concerne le fantastique, au-delà du fait qu'il touche à des peurs intimes, à des peurs qui sont propres à tout un chacun et qui ne sont pas très à la société dans laquelle on vit, il y a forcément des éléments qui sont plus pertinents à un moment qu'un autre. Et je pense qu'il ne faut pas s'arrêter au fait qu'effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une grande période en matière de fantastique et de science-fiction, même s'il y a toujours des œuvres intéressantes, mais que ce sont des genres qui sont, je veux dire, par essence, condamnés ou voués à un moment ou à un autre, entrer en phase de manière forte avec l'actualité, avec la société.
Je constate que beaucoup, au niveau du cinéma américain, en tout cas, c'est beaucoup d'adaptations de romans, en tout cas sur les productions récentes. C'est quelque chose que vous constatez aussi, ou c'est juste par hasard? Enfin, ça me donne l'impression de voir simplement des adaptations de romans et pas d'avoir des scénarios originaux. Ce qui, pour un genre qui se veut des fois justement à la marge ou original, pêche un peu. Est-ce que vous avez ce sentiment aussi?
Bah, disons, si on parle des productions américaines, le fait d'adapter des romans, c'est un phénomène beaucoup plus large que le fantastique ou la science-fiction. Il y a toujours eu dans le cinéma hollywoodien la volonté de prendre appui sur une œuvre littéraire antérieure, ne serait-ce que ça permet de bénéficier déjà du degré de notoriété de cette œuvre. Et très tôt, on a vu effectivement mis en avant dans la publicité le fait que tel film adaptait tel classique de la littérature, alors classique au sens large, hein, bien sûr. Donc c'est un argument pour le publicitaire déjà. Et puis plus largement dans le fantastique et la science-fiction, je crois qu'il y a toujours eu des adaptations qui passent par exemple par des adaptations des grands classiques, que ce soit, je sais pas, le Dr. Jekyll et Mr. Hyde ou Frankenstein. Donc les adaptations existent quasiment depuis les débuts du cinéma pour ces deux romans. Et ça me semble dans la logique, j'allais dire, dans la logique des choses, qu'il y ait un phénomène de... Enfin, que les deux genres se nourrissent, hein, des œuvres littéraires. Il n'y a pas vraiment de frontière entre les deux, d'une certaine manière. Il y a eu des cas fameux où des romanciers ont écrit des scénarios, notamment dans les années 50, pour des petites productions, d'ailleurs. Donc il y a eu un échange entre la littérature et le cinéma assez fréquent dans la science-fiction. Je vois des gens comme Matheson ont souvent écrit des scénarios, même pour la télévision, pour la quatrième dimension. Donc je pense d'ailleurs, au-delà de la question de l'adaptation, que les romanciers ou les novellistes sont par ailleurs intéressés par le médium et sont prêts à prêter leur talent, à prêter leur imagination. Donc c'est une question un peu délicate à résumer, disons, en quelques mots.
Il y a une période que vous aimez particulièrement, alors soit pour le côté novateur à l'époque, ou un petit côté nostalgique pour vous, ou est-ce que vous prenez toujours autant de plaisir, quelle que soit la période à laquelle le film a été créé?
Moi, je n'ai pas vraiment de période favorite. Je pense qu'il y a des œuvres fortes à peu près à toutes les époques du cinéma dans ces deux genres. Donc évidemment, je peux avoir des films qui me touchent plus particulièrement, des films qui avec lesquels je suis prêt, disons, à vivre un certain temps, les renvoyant régulièrement, d'autres non. Donc voilà, évidemment j'aime bien le cinéma classique, que ce soit le cinéma de la Universal ou le cinéma de la RKO, mais sont deux décennies, les années 30 et les années 40, qui m'intéressent, mais parmi d'autres.
Est-ce que, en fonction de on va dire, la notoriété qu'aura le dictionnaire, vous pensez déjà à faire, pas forcément une suite, mais faire des ajouts pour justement cadrer avec l'évolution, peut-être sur l'année 2014, une fois qu'elle sera terminée, ou est-ce que justement, à force de manger du fantastique et de la SF, vous voulez aussi peut-être faire une pause pour passer à autre chose?
Je vais faire une pause par ailleurs, mais je garde en tête le fait qu'il est possible qu'il y ait un jour une nouvelle édition, et une nouvelle édition de poche peut être envisageable d'ici quelques années, parce que c'est une démarche que reproduit régulièrement mon éditeur, donc je garde ça en tête et je prends des notes, je continue de prendre des notes, je fais des ajouts au fur et à mesure pour être sûr de ne pas me laisser dépasser par la production, qui est toujours importante.
Est-ce que vous arrivez à voir encore des films de façon, on va dire, purement spectateur, ou est-ce que à chaque fois vous avez forcément un œil un peu aiguisé quand vous regardez, vous décortiquez forcément le scénario, faites attention aux petits détails, aux effets spéciaux?
Bah, j'ai du mal pour le cinéma, mais en revanche, je fais plus dans une position de spectateur quand je regarde des séries. Comme bien entendu, assez fréquemment, on a des séries qui feuilletonnantes, on se laisse emporter par la force du récit, souvent plus que par un travail formel, en dépit des qualités des séries de ces 10 dernières années, surtout leur force narrative qui importe, j'ai l'impression. On ne peut pas dire que les séries contemporaines, dans tous les genres, soient vraiment novatrices formellement. Donc, j'arrive de cette manière, laisser un petit peu mes armes d'analyste à mon bureau. Et alors que...
Qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un qui dénigre le genre, justement pour lui donner envie de s'intéresser au dictionnaire du cinéma fantastique et de science-fiction?
Bon, c'est tout simple, les gens qui dénigrent le cinéma de la peur, ce que sont le fantastique et la science-fiction, sont des gens qui n'osent pas affronter leur peur, tout simplement. Ils peuvent parfois rire de certains films tout simplement parce qu'ils en ont peur, parce que ça touche une corde sensible. Donc voilà, tout simplement, je leur dirais, il faut affronter ses peurs et on n'en sort que grandi.